Émile Zola, note d'un ami. Chapitre 2. Enfance à Aix. Le père est mort. Le fils n'est qu'un bambin de 7 ans. La mère a sur les bras une lourde affaire dont dépend la fortune, l'existence même de la famille. Que vont devenir ces deux êtres faibles et désarmés? En disant « deux », je commets une erreur. Je devrais dire « quatre ». Les grands-parents maternels étaient venus se fixer à Aix, où ils vivaient avec leur fille et leur petit-fils. Mais le grand-père, vieux et retiré du commerce, ne s'occupait plus de rien. Qui était bien vivant, par exemple, c'était la grand-mère. Une vraie femme de la Beauce, native d'Auneau, très vive, très gaie, très ronde. Une forte tête, débrouillarde, prête à porter aussi gaillardement la gêne que la vieillesse. À 70 ans sonnés, pas un cheveu blanc. Tant que son gendre avait vécu, elle était restée un peu dépaysée dans cet intérieur confortable, luxueux même, au milieu des habitudes de vie large où se complaisait l'ingénieur vénitien. Mais, lorsqu'on fut obligé de se passer de domestique, de tout faire par soi-même dans le ménage, elle retroussa ses manches et trima comme 4, nullement attristée par ce revers de fortune, plutôt rajeunie et ragaillardie. Les mauvais jours la trouvent debout. Après des procès coûteux, mal engagés par la veuve de François Zola, désastreusement perdus, les économies s'en vont, le petit avoir des grands-parents y passe. La ruine est là, lente mais certaine. Et alors, quand il fallut tirer quelques ressources des derniers débris du luxe d'autrefois, ce fut la maman Aubert, hardie, retorse, qui alla traiter avec les brocanteurs. Ainsi, l'absence du père se faisait cruellement sentir. L'activité courageuse de la mère et de la grand-mère n'avait d'efficacité que dans le cercle restreint du ménage et de l'économie domestique. Les procès allaient mal, la fortune de la famille s'épuisait. Que faisait, pendant ce temps-là, l'enfant qui devait la relever un jour? On le gâtait. Il était heureux. Il poussait inconscient et en toute liberté. La mère et la grand-mère s'ingéniaient à lui causer des joies, de ces bonnes joies enfantines, où l'être encore neuf se précipite tout entier et sans arrière-pensée. Tandis que les deux femmes en étaient réduites à vaquer elles-mêmes aux soins de la vie courante, le petit Émile, toujours au milieu d'elles, fourre son nez partout et veut tout voir. Tant pis si leurs mains sont à chaque instant ralenties par la présence du gamin curieux, qui les accable de questions, qui déjà leur impose à chaque instant ses volontés. Il ne faut pas le contrarier, ce cher enfant, frappé si jeune d'un grand malheur. Tel est tout leur système d'éducation. Avec cela, devant leur demeure de l'impasse Silvacane, il y a un vaste jardin, pleine liberté pour le petit de courir dans les allées, de se rouler sur le gazon, dans la terre, de salir ses mains et ses vêtements. Tout, pourvu que ça ne lui fasse pas de mal. Un enfant, poussé ainsi, sans plus de direction qu'un églantier, ne pouvait être bien précoce. À 7 ans et demi, Émile ne savait encore ni A ni B. Un beau matin pourtant, les deux femmes se ravisent et tiennent conseil. Le grand-père lui-même prend part à la délibération. On ne peut laisser plus longtemps sans instruction le fils d'un ingénieur. N'est-ce pas lui l'avenir ? L'avoué et l'avocat, qui promettent monts et merveilles, se trompent peut-être. Les procès engagés peuvent mal tourner. Qui sait s'il n'y a pas dans cette petite tête aux yeux doux, déjà réfléchie, au nez futé, de quoi conjurer un jour la dureté du sort et l'injustice des hommes. Et l'on parle de le mettre au collège. Au collège ! Intervient alors maman Aubert. Il ira plus tard, quand il aura fait sa première communion. Je me charge de tout. Donnez-moi jusqu'à demain. Et, son chapeau sur la tête, l'active vieille femme trottait déjà en quête d'un pensionnat. Le lendemain même, Émile entrait à la pension Notre-Dame, tenue par M. Isoard. Pension bien modeste qui existe encore à Aix. J'ignore le nom du successeur de M. Isoard, qui continue à donner l'instruction primaire aux enfants de la petite bourgeoisie de la ville. Mais, à mon dernier voyage à Aix, je me souviens d'avoir passé devant le pensionnat Notre-Dame. Un brouhaha joyeux de gamins en récréation venait jusqu'à moi. Et je me suis demandé si, dans quelques 30 ans d'ici, un autre de ces jeunes élèves saperait à son tour les croyances artistiques d'aujourd'hui et nous traiterait de ganaches, nous autres naturalistes. Émile Zola passa 5 ans, de 7 à 12, sous la férule peu redoutable de ce premier père intellectuel. À 7 ans, il s'entêtait à ne pas savoir ses lettres, et M. Isoard devait le prendre tout seul au fond de son cabinet, où il lui apprit enfin à lire, dans un exemplaire des fables de La Fontaine. Ce furent encore 5 belles années. Il restait aussi libre que par le passé, courant quand il voulait dans le jardin, grimpant aux arbres, pétrissant le sable et la terre à sa guise, manquant la pension si ça ne lui disait pas d'y aller. Le fameux système « il ne faut pas le contrarier » était toujours pratiqué. Même quand la famille quitta la maison de l'impasse Silvacane pour aller se loger au pont de Beureau, hors de la ville, en pleine campagne, l'assiduité de l'externe du pensionnat Isoard devint tout à fait problématique. Au lieu d'un simple jardin, les champs entiers, les champs qui n'ont pas de clôture, lui furent ouverts. C'est là, le long de la Torse, petit ruisseau adorable, ainsi nommé à cause des capricieuses sinuosités de son cours, que le futur auteur des Contes à Ninon commence à s'éprendre de ce large amour de la campagne, qui plus tard sera à chaque instant la fantaisie et le côté poétique de son œuvre réaliste. La Torse, torrent en décembre, ruisseau si discret au beau jour, se trouve désigné dans l'invocation à l'amante idéale des 16 ans, à Ninon, qui ouvre le premier volume du romancier. Mais je ne voudrais pas que ces rapprochements littéraires, qui me sollicitent à chaque pas et auxquels j'ai peut-être tort de me laisser aller, donnassent une idée fausse et convenue de cette enfance. On sera un jour quelqu'un, mais on ne naît pas avec une étoile au front. L'enfance d'un artiste et celle d'un homme d'affaires, d'un commerçant, d'un huissier, se ressemblent. Qui eût vu le jeune Émile à cet âge, n'eût reconnu en lui qu'un enfant bien doué, ouvert, habitué à suivre ses volontés, par suite franc et doux, plein d'initiative. De là à présager un avenir, il y a loin. Si, à 8 ans, il aimait déjà la campagne, soyez sûr qu'il ne s'en doutait pas lui-même. Et un poète idyllique serait venu lui lire un sonnet champêtre qu'il ne l'aurait pas compris et serait allé faire ronfler sa toupie. Il y jouait à la toupie, et aux billes, et au cheval fondu, de préférence avec 2 de ses petits camarades de pension, Solari et Marius Roux. Solari est devenu sculpteur, Marius Roux, romancier et rédacteur du petit journal. Tous 2 sont restés ses amis les plus anciens, ceux des premières galopinades. À 12 ans, par conséquent en 1852, Émile Zola sortait de la pension Notre-Dame pour entrer au collège d'Aix en 8e. Collège, c'était sérieux cette fois. Maintenant, il est un grand garçon. La mère et la grand-mère se saignent aux 4 veines. Émile sera pensionnaire. Seulement, pour qu'on puisse aller le voir, tous les jours au parloir et le dorloter comme par le passé, on quitte le pont de Beureau et l'on vient se loger en ville, rue Bellegarde. En 8e, Zola fut d'abord à la queue de la classe. Mais, intelligent et réfléchi, plein d'une précoce prudence, il sentit qu'il était d'une famille moins aisée de jour en jour, que rien n'était plus incertain que l'avenir, qu'il ne serait jamais quelqu'un ou quelque chose que par son travail. De plus, il avait trop bon cœur pour ne pas essayer de donner une première satisfaction à sa mère et à sa grand-mère. Ces excellentes femmes l'avaient toujours traité en homme plutôt qu'en enfant, ne lui laissant rien ignorer de leurs embarras, prenant déjà en tout son avis, comme si quelque chose de la raison et de l'expérience du père pouvait leur venir par la bouche du fils. Il se comporta donc en homme et obtint 5 prix à la fin de l'année. Alors, dans sa hâte à parvenir, peut-être aussi n'aspirant, comme tous les collégiens, qu'à sortir au plus vite de la boîte, il voulut sauter une classe et entra tout de suite en 6e. Il passa encore 4 ans et demi au collège d'Aix. 6e, demi-pensionnaire. Pas de prix. Antipathie entre l'élève et un professeur dont il a gardé un souvenir abominable. 5e et 4e, toujours demi-pensionnaire. Et pas mal de prix, 6 ou 7. 3e, externe. Tous les premiers prix. Enfin, au milieu de sa seconde, lorsqu'il quitta subitement le collège et la ville d'Aix, il était encore incontestablement le plus fort de sa classe. Il faut ajouter ici que, au commencement de la 3e, il avait bifurqué. Ayant à opter entre l'étude des lettres et celle des sciences, le futur romancier naturaliste choisit par goût les sciences. Non qu'il dédaignât les lettres, mais parce qu'il éprouvait une répulsion pour les langues mortes, le grec surtout, et pour certains exercices fastidieux tels que le thème et les vers latins. C'était un invincible dégoût auquel se mêlait un peu de pose enfantine. Dans les sciences elles-mêmes, il avait ses sympathies. Assez peu enthousiaste pour les mathématiques pures, très attiré vers les sciences naturelles. Le premier tout de même en composition dans les unes et les autres. Je le connais bien, ce vieux collège, qui, sous l'Empire, s'appelait encore Collège Bourbon. Moi-même, j'y entrai en 7e, en 1857, quelques mois avant l'époque où l'élève de seconde, Zola, partait pour Paris, au milieu de l'année scolaire. J'y étais en 3e, quand mon ami et condisciple, Anthony Valabrègue, le poète, me parla pour la première fois du fils de celui qui a fait le canal, du fils Zola qui commençait à écrire des livres dans ce grand Paris vers lequel nous nous sentions tous attirés. J'étais en rhétorique quand parurent les contes à Ninon, que je dévorais en classe, le volume caché dans un dictionnaire, tandis que le professeur corrigeait un discours latin. Et maintenant encore, lorsque je me reporte à cette époque, je revois tout, la petite place tranquille et la fontaine des 4 dauphins, dont les monstres rococo tordent leur queue de pierre et crachent l'eau par leur bouche perpétuellement ouverte. La porte extérieure de la chapelle, noire en ce temps-là, toujours fermée. La fenêtre grillée du concierge, que nous allions gratter timidement chaque fois que nous arrivions en retard. Puis, la grande cour carrée, ombragée de 4 beaux platanes. Le grand bassin, la seconde cour, où étaient installés le trapèze, la poutre, les parallèles. Et les études du rez-de-chaussée, tristes, humides, manquant d'air. Et les classes du premier étage, plus claires, plus gaies, avec leurs fenêtres donnant sur les ombrages des jardins voisins. C'est dans ce bon collège communal, où les études classiques n'étaient pas bien fortes, mais où du moins une paternelle discipline laissait à chaque élève ses qualités et ses vices, ne faussant pas les personnalités naissantes, que Zola passa de l'enfance à l'adolescence. Tel que je l'ai vu depuis dans sa vie d'homme de lettres, tel il était déjà sur les bancs. J'en ai souvent causé avec lui, avec sa mère, avec ses anciens camarades. Il n'était ni un paresseux, ni un de ces foudres de travail qui s'abêtissent sur les livres. C'était un garçon intelligent et pratique, qui, sortant de classe avec un devoir à faire, des leçons à apprendre, se disait « Tout cela est médiocrement agréable, mais il faut que cela soit fait. Débarrassons-nous-en tout de suite. Nous nous amuserons après. » Et, à peine à l'étude ou rentré chez lui, il s'installait à son pupitre. Ne perdait pas une minute, entamait courageusement sa besogne, mais en la simplifiant le plus possible. Et il ne s'arrêtait que lorsqu'il était au bout de sa tâche. Alors seulement il se sentait libre et profitait largement de sa liberté. Pas d'excès de zèle en un mot, rien que l'indispensable et le nécessaire. Aujourd'hui encore, l'auteur des Rougon-Macquart est resté le même travailleur consciencieux, mais modéré. Pour élever le monument de sa haute ambition littéraire, tous les jours de l'année, tous les matins à son lever, après avoir mangé un œuf sur le plat, sans boire, il s'installe dans son large fauteuil Louis XIII, devant son bureau, où tout, encrier, buvard, livre, papier, est méthodiquement rangé à sa place. Puis, avec le grattoir, il fait aussitôt la toilette de sa plume, la débarrassant de l'encre séchée de la veille. Puis, après un rapide coup d'œil jeté sur ses notes d'ensemble, il se met à l'œuvre, reprenant la page où il l'a laissée la veille, souvent au milieu même d'une phrase, sans relire jamais ce qui précède pour s'entraîner, comme ont besoin de le faire les travailleurs irréguliers. Et il ne s'arrête, il ne se met à vivre de la vie ordinaire que lorsqu'il a achevé sa tâche quotidienne. 4 pages le plus souvent, des pages de papier collier ordinaire coupées en deux, des pages d'une 30aine de lignes, sans marge, d'une écriture compacte, ferme et régulière, sympathique à force de logique et de clarté. Presque pas de rature. On sent que cette prose a été coulée là, syllabe à syllabe, continuellement. Ce n'est rien que 4 pages, mais cela tous les jours, tous les jours. La force de la goutte d'eau, tombant à la même place et finissant par entamer la pierre la plus dure. Ce n'est rien, mais à la longue, les chapitres succèdent aux chapitres, les volumes s'entassent sur les volumes, et l'œuvre de toute une vie pousse, multiplie ses branches, étage ses frondaisons, consume un grand chêne destiné à monter haut et à rester debout dans la forêt des productions humaines. Quant à l'auteur, c'est toujours l'élève du collège d'Aix, resté méthodique et consciencieux, mais n'aspirant, souvent, qu'à la minute où il pourra se croiser les bras, après avoir écrit le mot « fin » au bas du dernier volume des Rougon-Macquart. Nous n'en sommes encore qu'aux collégiens. C'est sur les bancs du collège d'Aix qu'Émile Zola écrivit ses premières œuvres. En voici la nomenclature complète, exactement recueillie. Premièrement, un grand roman historique Moyen-Âge. Un épisode des croisades, je crois, avec des détails pris dans Michaud. Deuxièmement, quelques narrations et discours français en vers. Troisièmement, Enfoncer le pion, comédie en 3 actes, en vers. Des vers et de la prose, du roman et du théâtre, voyez-vous ça, c'était complet. Le roman sur les croisades, de beaucoup plus ancien que le reste, dut être fabriqué en 8e. Il en a conservé le manuscrit comme il a l'habitude de tout conserver. Notes, plans, anciens articles, lettres d'affaires, d'amis, simples billets. Je suis sûr qu'il ne déchire qu'à regret ses notes de blanchisseuse. Ce manuscrit, il me l'a montré un jour. Il est écrit d'une écriture courante, sans une rature, mais absolument illisible. Je ne pus pas en déchiffrer un seul mot, l'auteur non plus. Les vers, beaucoup moins enfantin, lisible au moins, n'apparurent que plus tard, en 4e, surtout en 3e et en 2e, au moment où il commença à lire les poètes. Plus jeune que lui de 7 ans, je ne l'ai pas connu à cette époque. Mais que de fois, à Paris, depuis 10 années, ne l'ai-je pas entendu revenir sur ce sujet de prédilection, sa jeunesse. Aussi, mes documents, je serais tenté de dire « rue souvenir, abonde. J'ai déjà expliqué ce que fut sa libre enfance. Je l'ai montré choyée, gâtée par 2 excellentes femmes, bonne jusqu'à la faiblesse, élevée avec la liberté du Nord, prise au sérieux et ayant voix délibérative comme un homme. Enfin, la bride sur le cou pour les lectures, les amitiés, les parties de plaisir. En avançant en âge, naturellement, cette liberté précoce ne fit que croître. Voici comment il en profita. Au collège, il s'était fait 2 grands amis. Peu liant, pas tutoyeur, myope, timide, naturellement très doux, déjà réfléchi avec un grand fond de sérieux dans le caractère, Le nouveau ne sympathisait pas avec la tourbe de gamins braillards qui composent le fond des petites classes des collèges méridionaux. En outre, cette engeance brutale trouvait de l'accent à ce camarade bien élevé né à Paris. On le traitait de parisien, de francio. Et même dans la première enfance, il avait eu presque un défaut de langue, moins un bégaiement caractérisé que de la paresse à prononcer certaines consonnes. Le E et l'S principalement qu'il prononçait T, totiton pour saucisson. Un jour pourtant, vers 4 ans et demi, dans un moment d'indignation enfantine, il proféra un superbe cochon. Son père, ravi, lui donna 100 sous. Certes, sa langue s'était déliée depuis. Mais il lui restait encore une circonspection devant certains mots, des lenteurs de parole. Ce rien suffisait. Il eût pu être très malheureux sur les bancs. Heureusement, il fit la connaissance de 2 garçons sympathiques, du même âge, mais plus avancés d'une classe. Cézanne, Baille et lui furent tout de suite les 3 inséparables, comme on les appela bientôt. D'année en année, leur liaison devint plus étroite, à un tel point qu'il me serait impossible d'aller plus avant dans mon récit sans raconter cette grande amitié. D'abord, ce ne fut qu'une camaraderie de galopins, entrecoupée probablement de brouilles passagères et, qui sait, peut-être de calottes. Mais ces calottes-là ne font jamais de mal, et plus tard, on se les rappelle avec attendrissement. Les jours de sortie, tous 3 s'attendaient à la porte et s'en allaient bras dessus, bras dessous. Quelquefois, c'était Baille, demeurant au bain Sextius, que l'on accompagnait. Pendant qu'on remontait le faubourg, une pierre, puis 2, puis 4, fendaient l'air au-dessus de leur tête, ricochaient contre les maisons d'en face. Les 3 amis devaient se garer, gagner l'abri de quelques portes cochères et assister de là à un dangereux spectacle. C'était d'homériques batailles à coups de pierre, enfants du faubourg contre enfants de la ville. 2 bandes de marmailles sauvages se pourchassant l'une l'autre avec des cailloux, continuant je ne sais quelle haine séculaire de quartier à quartier. Lisez les pages 317 et suivantes de « La faute de l'abbé Mouret », où le frère Arcangia et Jean Bernat, au clair de lune, se lapident terriblement. Ce n'est qu'un ressouvenir de ces combats du faubourg. D'autres fois, on faisait le tour de la ville, le long des vieux remparts crevassés et couverts de lierre. On les ardait au soleil, à l'abri du mistral, le long de la cheminée du roi René. Ou bien, si la journée avait été chaude, on sortait par la porte Bellegarde et l'on montait aux 3 moulins pour respirer. D'autres fois, c'était un régiment de passage que l'on allait voir faire son entrée sur le cours, musique en tête, puis à qui, le lendemain, dès l'aurore, on faisait la conduite jusqu'au pont de l'Arc. Dans les nouveaux contes à Ninon, il y a des pages sur ces passages de troupes et sur d'autres souvenirs de jeunesse, les processions par exemple. Les fenêtres pavoisées d'étoffes voyantes, la foule endimanchée, accourue de toutes parts, assise sur des rangées de chaises et sur le bord des trottoirs. Le milieu de la rue libre, comme une sorte de canal creusé entre 2 rives humaines. Puis les 2 gendarmes d'à cheval ouvrant la marche. Les théories déjà allumées, la bénédiction donnée du haut du grand reposoir, moment solennel où les belles filles cessent de rire et de montrer leurs jolies dents pour se cacher le front dans les mains. Tandis que les 2 petits canons, pour rire, donnés par Louis XIV à la ville, font la grosse voix. Cependant, les années s'écoulèrent. Les 3 inséparables ne furent plus des bambins ne songeant qu'à courir les rues. On était en 1855 et Émile Zola, lui, venait d'avoir 15 ans. Les ressources pécuniaires de la famille avaient encore diminué. De la petite maison de la rue Roual-Ferrand, où l'on s'était installé en quittant la rue Bellegarde, il avait fallu, le loyer devenant trop lourd, aller se loger plus économiquement, cour des Minimes. Mais à 15 ans, on a bien autre chose que l'argent en tête. La puberté s'éveillait. Nos amis se sentaient l'âme neuve. Ils étaient devenus riches tout à coup de désirs tumultueux. Et le cœur, les sens, l'imagination sonnaient des fanfares éclatantes. Alors, ils se mirent à lire passionnément, chacun de son côté. Ils se prêtaient les volumes, puis comparaient leurs impressions, discutaient. Que lisaient-ils ? De tout, certes, avec la belle voracité intellectuelle de l'âge où le corps et l'esprit n'ont pas encore achevé leur croissance. Surtout des poètes, peu de romans. De Balzac, rien encore. Alors, qu'arriva-t-il ? Tous les trois firent des vers, Zola naturellement, et Cézanne, devenu le peintre impressionniste que l'on sait, et Baille, aujourd'hui professeur à l'école polytechnique et adjoint au maire du 11e arrondissement. On peut dès lors reconstruire ce que fut cette adolescence à trois. D'abord, pas de femme, de grands désirs sans doute, mais l'excès même de ces désirs aboutissant vis-à-vis de la femme à une grande timidité. Tout au plus quelques amourettes avortées. Pas de vie de café non plus. On entrait dans un café de loin en loin pour se rafraîchir, celui des trois qui avait de l'argent payait, et l'on s'en allait, échappant ainsi à l'abrutissement du jeu, si fréquent dans la vie plate de la province. La ville ? On la jugeait de haut, on la méprisait un peu. On y vivait à part, le moins possible, n'y fréquentant pas d'autres jeunes gens, sauf Marguerite, un condisciple. Un charmant garçon, celui-là, qui avait succédé comme avoué à son père et qui est mort tragiquement dans une crise de folie en se tirant un coup de carabine. Fin terrible que ne faisait pas prévoir son caractère insouciant ni sa bruyante gaieté. Une même passion d'enfant pour la musique avait lié Zola et Marguerite. Le principal du collège s'étant avisé de créer une fanfare, Marguerite apprit le piston et Zola, qui n'a jamais eu d'oreille, dut choisir la clarinette. Qui le dirait aujourd'hui ? Certains jours de procession générale, en 1856, l'auteur de L'Assommoir a joué de la clarinette toute une après-midi, derrière les autorités ecclésiastiques, civiles et militaires, circulant dans les rues en grand uniforme. On fréquentait aussi assidûment le théâtre de la ville. Le parterre ne coûtait que 20 sous. Zola a peut-être vu jouer à Aix 18 fois la Dame Blanche et 36 la Tour de Nesle. Néanmoins, la grande débauche des trois amis n'était ni le théâtre, ni la musique, ni le jeu, ni la femme. C'était la campagne, une orgie saine de campagne, une soûlerie de grand air, toujours par monts et par vaux dans les environs d'Aix, tantôt sur les grandes routes, tantôt dans les sentiers de chèvres et des gorges désertes, des parties de chasse ou de pêche, des baignades dans la rivière de l'Arc, des courses de 10 lieues, l'été surtout, pendant les vacances, ou les jours de congé, à des 3 heures du matin, le premier réveillé allait jeter des pierres dans les contrevents des autres. Tout de suite, on partait, les provisions depuis la veille préparées et rangées dans les carniers. Au lever du soleil, on avait déjà franchi plusieurs kilomètres. Vers 9 heures, quand l'astre devenait chaud, on s'installait à l'ombre dans quelques ravins boisés. Et le déjeuner se cuisait en plein air. Baille avait allumé un feu de bois mort, devant lequel, suspendu par une ficelle, tournait le gigot à l'ail, que Zola activait de temps à autre d'une chiquenaude. Cézanne assaisonnait la salade dans une serviette mouillée. Puis, on faisait une sieste, et l'on repartait, le fusil sur l'épaule, pour quelques grandes chasses où l'on tuait parfois un cul blanc. Une lieue plus loin, on laissait le fusil, on s'asseyait sous un arbre, tirant du carnier un livre, le poète favori. Hugo, d'abord, plus tard Musset. On finissait par discuter. Quel était le plus fort des deux ? Longtemps, ils furent enthousiasmés par la rhétorique prodigieuse d'Hugo, jouant ses drames, s'étourdissant à la musique de ses vers déclamés tout haut. Mais Alfred de Musset les prit ensuite tout entier par son côté humain et vécu. Et il resta le plus cher, le plus lu, celui qui devait un jour jeter Zola dans son amour de la passion et de la vie. La nuit tombant, il revenait à petits pas, en discutant encore, en récitant à l'appui des vers sous les étoiles. La velléité les prit une fois de ne pas rentrer, de passer la nuit, toute une nuit, dans une grotte. C'était une immense excavation naturelle entre deux énormes rochers, une fente très profonde qui allait en se rétrécissant et devait aboutir à quelques trous de renard. Pour accomplir le haut fait, ils étaient venus quatre. Bai avait amené son jeune frère. À la tombée du jour, ils eurent soin de préparer au fond de leur grotte un lit parfumé, sinon moelleux, de thym et de lavande. Bientôt, la nuit vient, ils s'installent tous les quatre, s'étendent dans leur par-dessus et cherchent bravement le sommeil. Mais le temps s'est gâté. Un gros vent siffle par les fentes des roches. Ils sont très mal dans leur grotte. À la lueur de la lune, ils voient de grandes chauves-souris tournoyer au-dessus d'eux. Enfin, ils n'y tiennent plus, ils renoncent à leur beau projet et, vers 2 heures du matin, reprennent le chemin de la ville. Mais auparavant, ils enflamment les thym et les lavandes pour s'offrir la vue d'un embrasement romantique. Les chauves-souris épouvantées s'envolaient avec des miaulements de sorcières shakespeariennes. Un jour, brusquement, cette belle vie insouciante cessa. Dès le commencement de 1857, l'appartement du cours des Minimes étant devenu trop cher, il avait fallu le quitter. Et l'on était venu au coin de la rue Mazarine. Ce fut là le dernier logement de la famille Zola à Aix, le plus pauvre, rien que 2 petites pièces donnant sur le Barry, sorte de ruelle faisant le tour de la ville. 2 chétives maisons d'un côté, et de l'autre, le mur en ruine du rempart. La grand-maman Aubert mourut dans ce logement, en novembre 1857. La misère était venue. Tout le mobilier vendu, des dettes et les procès interrompus, faute de provisions à donner aux avoués. Telle était la situation. Vers la fin de l'année, Émile Zola venait d'entrer en seconde, lorsque sa mère partit toute seule pour Paris. Elle allait y jouer une dernière carte, solliciter pour ses procès l'appui des anciens protecteurs de son mari. Tout à coup, en février 1858, le fils reçoit une lettre de sa mère qui l'appelle. « La vie n'est plus tenable à Aix. Réalise les 4 meubles qui nous restent. Avec l'argent, tu auras toujours de quoi prendre ton billet de 3e et celui de ton grand-père. Dépêche-toi, je t'attends. » Après une grande excursion d'adieu au Tolonnay et au barrage, Zola, un soir, embrasse Cézanne et Bai. « Nous nous retrouverons tous les 3 à Paris. » Et, léger d'argent et de bagages, incertain de l'avenir, le cœur gros de quitter peut-être pour toujours sa chère Provence, cette banlieue d'Aix, dont il connaît les moindres recoins et dont il emporte en lui, comme une bonne odeur fraîche, un enivrement d'adolescence au grand air. Le voilà en route pour la grande ville.